l'ombre de Concertina, l'émission en direct et en public d'ici Londres, depuis la Halle à Dieulefit, samedi 10 juillet à 19h. À l'ombre de Concertina, on va bien finir par se quitter. La radio ici l'ombre, c'est jusqu'à ce soir minuit, ou peut-être qu'on vous fera un petit rab dans la nuit. En tout cas, on est très content de faire ce dernier direct en public dans la halle de Dieulefit au premier étage. Aujourd'hui, une émission consacrée à l'intervention artistique en prison, l'intervention artistique et la création en prison. Nous accueillons quatre invités. Sarah Louis, qui est comédienne et membre notamment du collectif F71, qui a longtemps travaillé autour de la pensée de Foucault, au gré de plusieurs spectacles, et qui a aussi mené divers ateliers au Baumettes ou à la centrale d'Arles, et qui était là en qualité d'invité au parloir libre des rencontres Concertina. Vous l'avez peut-être croisé dans les rues de Dieulefit.
Juste à côté de Sarah, Arnaud Théval. Arnaud, vous êtes artiste, vous travaillez notamment les vecteurs de l'architecture et de la photographie, et depuis une dizaine d'années, vous intervenez régulièrement en prison et également auprès de surveillants en formation à l'ENAP, hein, c'est ça, donc l'école où se forment les futurs gardiens de prison.
Absolument. Donc,
à côté encore, Patrick Massoni, bonjour.
Bonjour.
Qui est un autre invité des parloirs libres des rencontres et aussi ancien détenu de la centrale d'Arles.
C'est cela.
Et centrale dans laquelle il se passe pas mal de choses en termes de création artistique dont nous allons parler aujourd'hui dans cette émission.
À côté de Patrick, Jean-Michel, et entre Patrick et Arnaud, Jean-Michel Grémillat, comme ça vous avez aussi l'image, hein, vous avez aussi l'image. Jean-Michel, avec votre association Culture et Liberté, vous avez initié de nombreux projets artistiques en prison, notamment à la prison d'Arles, mais pas seulement, on en parlera au cours de l'émission.
Je peux dire un truc là, parce que ce qui est important, l'essentiel de la radio sur la télévision, c'est qu'il n'y a pas l'image.
Cool. Et que les auditeurs et auditrices s'en font des images. Voilà.
Avant de se lancer dans un échange, je vous propose d'écouter un abécédaire qui a été réalisé justement dans la centrale d'Arles il y a plus de 10 ans.
Argent.
Peut-être la cause première de l'existence des prisons.
Automutilation.
Acte par lequel l'homme-machine tente d'enrayer la bonne marche de la chaîne de fabrication. L'automatisation des humains mène à l'automutilation.
On mutile nos vies de portions de temps.
Autorité responsable.
L'autorité n'est jamais responsable.
Avocat.
Auxiliaire de justice, le bien nommé.
Une personne capable de dire tout et son contraire, selon qu'elle soit du côté de la défense ou de la partie civile.
Barbelé.
Dispositif de dissuasion visant à empêcher humains, ovins et bovins de sortir de leur enclos.
Barreau.
Le point commun entre l'ordre des avocats et une cellule.
À partir de la barre du TGI, on passe par le barreau des avocats et on s'éternise, accroché, faisant des barres pendant la promenade en rêvant de scier des barreaux.
Bracelet électronique.
File à la patte pour filer droit.
Cantine.
Les bons vides que l'on peut remplir faute d'argent, comme un rappel hebdomadaire de sa propre indigence.
Casier judiciaire.
Tatouage indélébile s'opposant à toute idée de réinsertion.
Un tiroir qui ne se vide jamais et reste toujours très lourd à porter.
Cellule.
Grise.
Je croyais que ce mot concernait le seul corps humain. En grandissant, j'en ai eu la confirmation. Il concerne le corps humain.
Voilà, on a commencé avec cet abécédaire qui est extrait d'un ensemble de créations sonores qui ont été réalisées à la centrale d'Arles il y a plusieurs années, puisque c'était entre 2001 et 2003, par Antoine Chao, documentariste, grand professionnel de la radio et ses acolytes, et Radio des Suds, qui est la radio éphémère qui accompagne le Festival des Suds, qui œuvre toute l'année pour que tous les Arlésiens et les Arlésiennes puissent entendre le festival. Donc il y a eu tout un jeu d'aller-retour entre le festival et les personnes détenues. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un exemple donc, de ce qui peut se produire en prison. Et on se demandait avec Marc, qu'est-ce que ça a de différent, qu'est-ce qui est singulier dans les créations qui s'élaborent au sein d'une prison par rapport à d'autres types de publics amateurs avec lesquels se créent de plus en plus de spectacles ou d'œuvres communes qui mélangent des artistes professionnels et des amateurs. Donc, je ne sais pas qui aurait envie de répondre à cette première question sur la singularité de, ce qui se, de la création et des œuvres produites en prison.
Jean-Michel s'approche de son micro, ou Sarah, plutôt Jean-Michel. Donc la spécificité d'une œuvre produite en prison, comme cet abécédaire et plein d'autres créations dont on va parler ou entendre des extraits dans l'émission.
Je mettrai déjà un tout petit préalable, simplement avant de répondre concrètement à la question, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas une nécessité particulière parce qu'on est en prison. Je crois que c'est le citoyen qui a une nécessité particulière dans son quotidien, comme on l'a de respirer ou de manger, d'avoir un rapport avec un espace sensible, d'avoir un rapport avec la beauté.
De faire de l'art.
D'être en rapport avec l'art. Chacun va y trouver sa place, qu'on soit en prison ou n'importe où. Voilà, c'est ce petit préalable que je voulais faire. Alors après, le grand avantage, c'est que quand on est dans un espace comme celui-là, on a souvent à rencontrer des gens qui sont dans un état de disponibilité très positif. Il ne faut pas l'interpréter négativement ce que je dis, mais c'est vrai que même si la vie quotidienne d'un prisonnier est très rythmée et souvent beaucoup plus remplie d'obligations que les gens peuvent se l'imaginer, néanmoins, il y a un rapport au temps qui nous enseigne à nous, nos rapports médiocres au temps, nous qui sommes des hommes dehors. Le rapport au temps dont je bénéficie quand je suis dans cet espace-là me positivise moi-même dans la réflexion et dans le travail. Donc c'est vrai que quand on arrive avec un projet artistique, quand on commence à élaborer collectivement un projet artistique, on pourrait parler d'exemples concrets, on peut parfois aller très loin, beaucoup plus loin que quand on est dans un autre espace extérieur, je ne sais pas comment le définir, parce que la disponibilité et l'ouverture au monde est souvent assez pleine, assez totale. Je ne sais pas si on va parler par exemple d'une aventure à laquelle Patrick et Sarah d'ailleurs ont été mêlés, qu'on a mené il n'y a pas si longtemps d'un atelier de création radiophonique, on est à la radio, on a été très loin dans les propositions, on n'aurait peut-être pas osé les faire dans un monde normal, dans un monde extérieur. Ben, il s'agissait d'explorer la parole des hommes. Il s'agissait d'explorer la parole des hommes, notamment on était sous l'influence, quand on a démarré cet atelier, quand on l'a conçu, du débat sociétal autour de qu'on a nommé MeToo, Weinstein, comme vous voulez. Et on est arrivé avec comme idée de base de travail, mais qu'on a essayé de partager, de faire adopter ce qui s'est passé, avec un texte de Racine, Bérénice, en alexandrin. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup des gens qui parlent dans la vie en alexandrin. Moi non.
Rare.
Ouais. On ne peut pas s'empêcher de se dire peut-être là encore moins qu'ailleurs, mais enfin, même dehors.
Dans une langue étrangère, en gros. Hein.
Voilà. Et ça n'a pas posé beaucoup de problèmes. Ça. Il y a eu des réticences, je ne veux pas dire que c'est parti tout de suite, mais cette fréquentation d'une langue qui est une langue complètement étrangère aujourd'hui, parce que ça nous intéressait en tant que support au travail que nous voulions mener, était génial. Bon, pourquoi Bérénice ? Parce que c'est une tradition.
On y reviendra sur Bérénice, mais ça veut dire dans votre réponse, Jean-Michel, qu'on n'est pas obligé dans une création réalisée en prison de parler de la prison.
Alors moi, j'aimerais réagir à ce que je viens d'entendre, parce que moi, je pense qu'en prison, comme ailleurs, ce qui peut se passer en prison peut se passer partout ailleurs. Mais je dirais qu'il n'y a aucune singularité à produire un atelier d'expression artistique dans un espace de confinement ou dans un espace de réduction de la liberté, parce que finalement, quand vous êtes dans une école, dans un EHPAD, etc., vous vous amenez la possibilité d'un langage autre, qui part rencontre, alors hyper contrainte, j'ai entendu. Enfin bon, comme partout ailleurs, dès qu'on propose à quelqu'un de s'émanciper de sa condition de sujet et assigné à la place qu'il est, il peut s'en échapper. Alors, je me permets de continuer. Pour moi, qu'est-ce que la singularité d'une œuvre en prison ? Eh bien, c'est principalement sa force politique. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre les pieds en prison sans avoir une pensée politique, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on fait sortir comme image de la prison, comme représentation, qui ne soit pas celle attendue ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut déjouer comme piège de fabriquer une énième caricature de ce qu'est la prison, de ce qu'on attend qu'elle soit représentée ?
Et les œuvres peuvent toujours sortir ?
Mais les œuvres doivent d'abord sortir.
C'est pas toujours le cas.
Mais il faut que ce soit une négociation entre l'artiste, l'institution pénitentiaire, et c'est un préalable de base, en fait. Hein, parce que si on vient construire un projet artistique en prison et qu'on assigne la production même à son espace de création, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est pour ça que pour moi, la dimension première, c'est... Alors moi, effectivement, moi, je ne fais pas des ateliers de pratique artistique, hein, je produis une œuvre sur la prison, mais si j'échoue à faire sortir une image différente, ou en tout cas une image qui, moi, m'intéresse d'aller provoquer, travailler, j'échoue politiquement à mon projet artistique.
Sarah, vous aviez envie de dire quelque chose sur qu'est-ce qu'une œuvre produite en prison ?
Oui, alors sur la singularité d'une œuvre produite en prison, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Arnaud sur la dimension politique, parce que bien évidemment, elle ne se fabrique pas du tout dans les mêmes conditions qu'à l'extérieur. Nous sommes la plupart du temps payés pour mener ces projets-là, que ce soit des ateliers sur le long terme ou que ce soit des projets ponctuels. La plupart des détenus avec lesquels nous travaillons ne sont pas payés. C'est une énorme différence. Alors, vous allez me dire, pour les amateurs, c'est pareil, ils ne sont pas payés. Mais moi, contrairement à ce que viennent de dire mes deux collègues, je pense qu'il y a quelque chose de très, très, très différent à travailler en prison ou à travailler avec des amateurs. Et c'est intéressant, le mot amateur veut dire aimer. Et un amateur, il va de lui-même s'intéresser à un projet, il va avoir envie d'y venir. Moi, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat tout de suite tant qu'on y est. Il faut quand même bien savoir que quand on travaille en prison et qu'on propose un projet, le désir n'est pas forcément là et même rarement là du côté des prisonniers. On parlera peut-être des différences et c'est bien que Patrick soit là parce que moi, par exemple, j'ai travaillé en centrale et j'ai travaillé en maison d'arrêt. Ce n'est pas du tout le même genre de population, de groupe. L'âge fait quelque chose, l'implantation de la prison selon la région dans laquelle elle se trouve fait quelque chose. Le moment où les gens sont dans leur peine fait quelque chose, c'est-à-dire que quand on travaille avec des gens qui sont déjà en train presque de sortir, qui sont déjà dans un processus de réinsertion, ou bien quand on travaille avec des gens qui savent qu'ils en ont qu'ils ont pris en moyenne entre 10 et 30 ans, c'est complètement différent. Et je pense que c'est très 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 important de nommer cette question du désir ou du non-désir. Parce que nous, en tant qu'artistes, et c'est pour ça que, d'une certaine façon, je trouve que c'est intéressant d'en parler dès le début, il est de bon ton de dire que c'est très important de travailler en prison, que ça fait s'évader les gens, que ça fait, ça leur donne une respiration et tout ça. Il faut quand même savoir que, de manière beaucoup plus prosaïque, la plupart des gens qui s'inscrivent là le font parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des remises de peine, parce qu'ils savent que le bon comportement et la bonne adhésion à tout ce qui peut leur être proposé sont vraiment des points positifs pour eux.
Mais comment vous faites ?
Cela étant dit,
vous retrouvez face à des amateurs de théâtre qui sont des amateurs sans désir et sans amour.
Bah, c'est extrêmement difficile. Comment vous faites quand vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas de désir et pas d'amour ? C'est extrêmement difficile et il faut le dire, je pense, parce que c'est quand même ça qui fait la singularité, la force et la beauté de ces choses-là aussi. Quand finalement, on arrive à tenir jusqu'au bout et faire en sorte que quelque chose se passe quand même. Mais voilà, je voulais juste orienter aussi le débat sur cette chose-là qui me semble assez importante et qu'il ne faut pas éluder parce que tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil.
Alors justement, sur cette question du désir, Patrick, peut-être vous avez participé donc à cet atelier, à cette création sonore autour de Racine, mais vous avez sans doute aussi eu l'occasion de participer à d'autres ateliers et productions artistiques.
Est-ce que vous aviez du désir, Patrick ?
Alors,
vous
du désir,
mais dans les ateliers.
Le désir, comme disait Schopenhauer, tout désir procède d'un manque. Nous avons tous un manque. Alors, dans ces ateliers, il y en a toujours qui sont un peu plus cultivés, je veux dire, cultivés que les autres. Donc, eux, savent à quoi, ils s'attendent à quelque chose que, plus ou moins, ils arrivent à matérialiser, si le mot matérialiser n'est pas...
À s'imaginer, ouais.
À s'imaginer ce que c'est. Et d'autres, ils sont réticents parce qu'ils ne connaissent pas la chose. Après, quand on en discute deux, trois jours après, ensemble, que je leur montrais ce que c'est, ce que... C'est, alors là, c'est parti. Et là, après, parce qu'on est quand même...
Patrick, pour bien comprendre, ça veut dire qu'un gars qui vient pour une remise de peine, il peut accrocher les wagons en cours de route ?
Alors, nous, on n'a jamais fait ça pour les remises de peine. On s'en fout totalement. Nous, on est friands de ce qui nous sort de l'enfermement, de la prison, de la centrale plutôt. On est friands de ça. Très friands. Donc, les remises de peine... C'est une contingence. Elles sont là, c'est bien. Elles ne sont pas là, c'est pas...
Peut-être qu'on peut préciser, pardon, pour les auditeurs et les auditrices aussi, qu'est-ce que ça implique, c'est-à-dire sur le côté pénal, le fait de s'inscrire à des activités ou d'être dans une certaine démarche. Est-ce que ça permet d'avoir des remises de peine? Qu'est-ce que concrètement, est-ce qu'on peut...
Je ne veux pas trop parler de la centrale, parce que j'ai quand même des amis qui y sont encore, mais vous savez, toutes les créations artistiques, qui ont été créées du temps pendant les 5 ans et demi que j'étais à Arles, c'est le même noyau, c'est le même groupe. Il y a les sportifs d'un côté, ils vont faire les galériennes de Louis XIV, ça leur aurait plu. De
lever des kilos de fonte.
Ouais. Oui, les galériennes de Louis XIV faisaient pareil, sauf que c'était des rames, mais ils étaient contents. Et ça leur, c'est leur médicament, quoi. Ça leur convient comme ça. Il y en a beaucoup, c'est la majorité en prison. Et puis on a un petit noyau d'une dizaine de personnes, un peu moins. Parce qu'il y a quelques-uns, il fallait les convaincre quand même, pour quand même garder un noyau cohérent pour que le projet puisse se faire. Parce que si on est deux, trois, le projet ne se faisait ou risquait de passer à la trappe. Donc on essayait de convaincre quelques-uns quand même de rester, de s'inscrire à ce projet, même s'ils n'étaient pas trop...
Mais est-ce que le fait de s'inscrire à ces projets, ça permet par exemple de réduire la peine, ou est-ce que ça a une incidence sur la peine?
Pas du tout.
D'accord, donc c'est vraiment...
Non, ça aurait là...
D'être vu comme un bon détenu.
Oui, c'est plutôt ça. Moi, quand je parlais de ça, c'était pas d'un point de vue pénal.
Hein, après, non, mais...
Ça contribue peut-être.
C'est toujours bien vu, parce qu'on voit qu'on s'implique, parce que quand même, pour amener un projet artistique comme on l'aura de les ramener avec Sarah Louis par l'intermédiaire de Jean-Michel Grémier, ça engendre quand même des forces phénoménales pour que l'administration, parce que le roi de l'air quand même, elle est un peu la faire entrer dans une prison, qu'elle reste avec des détenus, la direction, les têtes pensantes de la sécurité de la prison, ils sont un peu réticents, ils sont, vous voyez, donc ça, il a fallu que des gens, que ces gens-là soient convaincus que du bien fondé, que ça risquait rien, que ça allait amener quelque chose. Donc, tout ce travail fait en amont pour que le projet soit à fin là, il faut quand même qu'après, il faut un peu de gens qui soient là pour que le mener à bien. Et on s'est forcé. Alors, les piliers du groupe qu'on était, on est 2, 3, 4, pas plus, quoi. Mais les autres, c'est pas qu'ils ne participaient pas, c'est pas qu'ils ne s'intéressaient pas, mais il fallait faire un ciment, vous voyez.
Mais ce que vous venez de dire, Patrick, ça vient contrer un peu ce que vous disiez, Sarah. C'est-à-dire que ce n'est pas tant que des gens viennent sans désir que les gens qui auraient du désir pour le théâtre sont peu nombreux en détention. Peut-être à cause du fait qu'on enferme des pauvres essentiellement et que le capital culturel, il n'est pas forcément là. Ben voilà, ça fait sourire Arnaud.
Ah oui, alors... ça me fait sourire. Non, ça me fait sourire. C'est la formule qui me fait sourire. Le fond n'est pas drôle. Après, je ne vais pas répondre à la place de Sarah sur la question du désir, mais néanmoins, si je peux me permettre, le désir, ça se provoque. Hein, le désir, ça se provoque et ça se génère par des rencontres parfois inattendues. Donc, effectivement, peut-être que la clé de voûte de cette histoire-là, c'est l'indétermination des rencontres. C'est-à-dire qu'on va tenter quelque chose avec des pauvres, comme vous dites, ou avec des gens qui ont d'autres cultures, et que c'est probablement le frottement entre ces cultures et ces compétences différentes qui vont permettre de faire émerger du désir, et le désir de on ne sait pas trop quoi, mais c'est un désir qui est pas réductible à une forme ou à une autre. Et en
non,
tout
mais
cas...
tout désir possède de manque. Il nous manque. C'est...
Donc ça veut dire qu'on pourrait faire du poney en prison, ce serait pareil.
Mais figurez-vous que ça existe.
À dessein que je dis. Que je...
Mais... Bien sûr.
Et c'est ça... pas une petite activité, le poney.
Et sinon, c'est
plus compliqué à faire rentrer qu'un texte. Et... Il faut voir.
Non, mais j'ai vu quelques beaux, très beaux projets à Arles. Quelques très beaux projets.
J'ai volontairement été dans un sens un peu peut-être radical, mais je l'ai fait volontairement parce qu'on est quand même au troisième jour de ces rencontres concertina. Je trouve qu'il y a une très belle complexité qui a été partagée par tout le monde. Je viens d'entendre la restitution de Philippe Mérieux qui a placé toute sa petite restitution en 6 points sous le signe du paradoxe. Et je trouve que c'est intéressant de partir de cet endroit-là parce que comme je disais, il est de bon ton de dire que c'est forcément formidable de faire des ateliers en prison. Hier, au Parloir Libre, il y a une personne que vous avez reçue ce matin, qui est Christine, qui disait direct, c'est du pipi de chat. On s'en fout, nous ce qu'on veut, c'est pas de prison. Rien ne nous sortira de la prison, rien ne nous libérera la tête que le fait d'être dehors. C'est pas vrai qu'on s'évade. Et je trouve que c'est important de l'entendre, parce que Dieu sait que je pense que c'est très important, et sinon je ne le ferais pas, de faire ces ateliers artistiques en prison ou des projets artistiques en prison. Mais dans le même temps, je trouve que c'est vraiment intéressant de se poser la question de leur utilité, de leur légitimité, tout ça. De la même façon que hier, je ne sais pas si vous avez entendu la conférence de... Oui, bien sûr que vous l'avez entendu, de Roxana Nazer, je ne veux pas écorcher son nom de famille, voilà, qui, à la fois, en même temps qu'elle est juriste, met en cause les rouages de la manière dont la justice fonctionne avec le pénal. Donc je trouve que c'est intéressant, en tant qu'artiste, être absolument convaincu de ça, mais en même temps pouvoir le réinterroger. Voilà, c'était dans ce sens-là que je plaçais le débat un peu.
Absolument, et le réinterroger de quelle manière ? C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui me surprend toujours dans les discours sur la prison et sur l'action culturelle ou artistique en prison, c'est que ça reste toujours à l'endroit du détenu. Hein. C'est toujours le détenu qui va bénéficier de ces pratiques-là. Et pour moi, ça, c'est une assignation de la pensée artistique sur le dispositif carcéral. C'est-à-dire que moi, ce qui me surprend, pour reprendre les termes de Sarah sur Concertina, c'est qu'on pense la prison en l'absence de ceux qui font la prison. C'est-à-dire qu'effectivement, n'ont pas été présents pour discuter avec nous ceux qui y travaillent. Donc moi, je me demande pourquoi les directeurs ne sont pas là, pourquoi les salauds de surveillance ne sont pas là, pourquoi les CPIP ne sont pas là. Comment on peut penser un dispositif sans accueillir autour de la table les acteurs qui le travaillent, c'est-à-dire les acteurs que nous, on paye en tant que force publique. Donc en fait, moi, la question, c'est effectivement le paradoxe, il est d'abord là, c'est-à-dire de penser à destination. On pense toujours soit à la place des autres, soit à destination, et en plus, on assujettit et on assigne quelqu'un à sa place. Donc moi, la question des porosités et du débordement, c'est quand allons-nous vraiment déborder ?
Pour revenir, ça c'est une bonne question pour le Concertina deuxième édition par
exemple.
Mais Patrick, en tenant compte de ce que vient de dire Arnaud, Bérénice, ça a produit quoi chez vous, chez les spectateurs auxquels vous l'avez donné à entendre et à voir, et chez peut-être les gardiens, les surveillants de la prison d'Arles à l'époque ?
Alors, pour moi personnellement, j'étais en master de philo à l'époque quand on a créé ce projet Bérénice qu'on nous a apporté. Et donc, je me suis occupé, moi, de la partie plutôt historique, équation historique de comment a été déjà les conditions de possibilité que Racine a mis dans ce texte, pourquoi il a écrit ce texte, d'où vient ce texte.
C'est important, juste, pardon Patrick, je t'interromps, mais juste pour préciser, parce que pour qu'on puisse se représenter quand même le travail, ça n'a pas du tout été un travail de théâtre, on n'a pas fait une pièce de théâtre, c'était radiophonique, c'était vraiment un travail sur la langue, le texte, la dramaturgie et les discussions qu'il y avait entre nous. C'était pas du tout une représentation théâtrale.
C'était un support.
C'est d'accord, exactement.
On a travaillé sur Bérénice.
On a travaillé sur Bérénice, et en association en même temps avec l'actualité de l'époque, qui était le mouvement MeToo, dont Laurent Murat est venu en même temps nous parler de son livre et de son histoire personnelle et de ce que le pensait de Bérénice, que Nathalie Azoulay aussi, qui a écrit aussi sur Bérénice un roman philosophique, on peut dire, qui porte un petit peu quelque chose, qui nécessite un pensée sur la rupture, quoi, qui parle de la rupture d'une manière qui est... qu'elle voit se sauver par en lisant du Racine. C'est un paradigme intéressant et surtout nouveau. Et puis, on a travaillé sur Racine, alors la façon de dire les Alexandrins. Et il est venu une personne, je ne me rappelle plus son nom d'ailleurs.
Yves-Noël Genot.
Yves-Noël Genot qui lit des Alexandrins d'une manière comme si nous on boit un verre de rosé en plein été. Et c'était très intéressant. On a essayé de le faire, bon, pas aussi bien que lui, mais on a essayé de le faire, de lire un peu des Alexandrins. Et puis on a travaillé surtout sur qui était Bérénice, la vraie, pas celle de. Par la Marie Mancini qui. Que, pour qu'il Racine dédie ce livre, Louis XIV, quoi, parce qu'il bon, avait une pensée là-derrière, Racine, il n'écrit pas ce texte par hasard. Moi, ça m'a fait relire les Énéides de Virgile, et puis et l'histoire de Didon et d'Énée, quoi, parce que ça vient de là, ce texte aussi, hein. Ce texte vient de là, hein. C'est un texte tiré des Énéides de Virgile. Ça m'a fait relire Suétone, ça m'a fait relire Tite Live et tous les historiens.
Et puis, par exemple, les auditeurs des émissions faites autour de Bérénice ont réagi?
Alors ça, nous, on ne l'a pas su. J'ai pu l'avoir en podcast et officieusement, je l'écoute en direct. Mais bon, c'est... Mais nous, on n'a pas eu les retours vraiment. On les a eu plus ou moins, les retours qu'on nous a dit où tout le monde était content, mais les retours réels, on ne les a pas eus.
C'est juste un bouche à oreille de proximité qui a pu être le retour. Mais d'après ce qu'on m'a dit à France Inter, parce qu'il s'agit de celle-là, les retours, ils n'en ont pas. Même si c'est toujours des émissions passionnantes que produit Laura Adler, c'est apparemment pas la norme.
Mais ça, c'est aussi une question, parce qu'en discutant avec pas mal de gens qui interviennent en prison, il y a toujours cette question de comment... garder le lien, comment c'est parce que vous disiez aussi tout à l'heure, Arnaud, comment, quand l'œuvre est produite, si elle est produite que pour être restée à l'intérieur de la prison, ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est toujours difficile aussi de retrouver ensuite les personnes pour leur dire ça y est, c'est fini, on peut le diffuser. Voilà le fruit de notre travail quand il s'agit de travaux avec des post-productions, des choses qui ne se terminent pas tout de suite en prison. Et moi, j'ai rencontré plusieurs artistes qui faisaient état de cette difficulté de vraiment subir un peu toute l'administration pénitentiaire qui rend les choses compliquées dans la relation. Ensuite, moi-même, je me souviens quand je suis intervenue dans une maison d'arrêt, on m'a bien fait comprendre qu'après, il n'était plus question que je m'adresse aux personnes que j'avais rencontrées pendant l'atelier.
Alors, il y a plusieurs choses dans votre question en témoignage. Hein. Il y a la question de la précaution que prend l'administration pénitentiaire à votre endroit au regard de la relation que vous allez pouvoir créer avec les personnes détenues. Donc il y a toujours un système de précaution parce qu'il y a tout un tas de trucs que vous ne savez pas et qu'ils sont toujours, et la confiance et la suspicion, c'est toujours deux choses qui fonctionnent ensemble. Ça, c'est la réalité de leur métier. Après, il faut regarder un peu de quoi on parle quand on parle de production artistique en prison. Alors, quand on parle des ateliers de pratique artistique, effectivement, ce qui semble compliqué, c'est comment les créations peuvent être montrées à l'extérieur, qui les regarde, où est-ce qu'on les voit, et surtout comment on les désigne. Est-ce qu'on les désigne comme étant une production de la prison ou est-ce qu'on les désigne comme une production de quelqu'un en prison, ce qui est déjà en soi une réflexion sur l'assignation de l'objet qu'on regarde. Ensuite, pour ce qui est de la relation avec la maison pénitentiaire, on est dans un lieu particulier, on est avec des personnes qui ont commis des choses particulières, donc on est aussi dans une société qui est énormément basée sur la protection des victimes. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on engage quand on montre des visages, des corps à l'extérieur. Alors évidemment, il ne s'agit pas de valoriser cette société de la sécurisation. Néanmoins, pour ma part, moi qui travaille avec des corps photographiés ou des récits, donc des visages que l'on peut reconnaître, c'est évident qu'il y a une précaution à prendre pour que quand ils apparaissent dans l'espace public, que ce soit fait de façon correcte. C'est une question de respect et d'engagement mutuel, en fait. Donc l'administration, elle est hyper pénible, mais en même temps, elle garantit la protection des personnes qui sont derrière les barreaux, comme la vôtre. Ça peut paraître une contrainte totale, et en même temps, c'est un vrai exercice de droit et de devoir qu'on a les uns envers les autres.
Et puis pour pouvoir participer à n'importe quel projet, on cède nos droits à l'image et nos droits...
Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'on cède les droits à quelque chose dont on ne sait pas exactement ce qui va en devenir, en fait. Et ça, c'est très intéressant parce que la plupart du temps, il y a une espèce de méconnaissance de l'objet final, hein, que ce soit un texte, une image, une pièce, etc. Donc la grande préoccupation, moi, qui m'anime, donc le respect, donc l'enjeu politique aussi, c'est de tenter de veiller à la non-instrumentalisation de l'objet qui sort de la prison. Et ça, c'est très compliqué parce que, vous voyez, rapidement, on peut instrumentaliser ce qui s'y dit, ce qui s'y fait et surtout ce qui s'y produit en tant qu'image.
Alors, il y a un objet qui est sorti de la prison, qui est la création radiophonique que vous avez réalisée, Sarah, en partenariat avec Lieu Fictif au Baumettes à Marseille, qu'on a diffusé hier sur Ici l'Ombre dans la case Doc en stock hier après-midi et qui, du coup, podcastable dès à présent ou dès demain sur le site des rencontres. On en écoute un extrait et on en parle ensuite.
Oh, je rêve de ce putain de custom, mais je vais dans mon plat.
Ce
Sérieux?
Et dis donc, la classe d'en resto, Doumé. Tu nous as fait faire combien de bornes pour venir bouffer chez ton coiffeur?
Hop, 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 les gars, on n'est pas là pour parler de fruits de mer. On a des affaires plus importantes à régler, non?
T'es sûr? C'est pas cheveux à poids, hein? C'est la boule.
Très drôle.
Les gars, j'ai une idée. Christo, appelle-moi le serveur.
Christo se lève, claque les doigts, appelle le serveur.
Serveur! Oh, serveur! Viens, viens.
Quelque chose ne va pas.
Fais-moi venir ton patron.
Accélère.
Le serveur file chercher le patron. Vito arrive.
Bonjour, messieurs. Je peux faire quelque chose pour vous?
Oh, tu crois que je suis venu dans ton resto pour me faire faire des implants ou quoi?
Pardon, je ne comprends pas.
Tu m'as bien regardé, tu as vu mon crâne? Nu comme un bébé. Pas les cheveux qui traînent. Ah, ça fait 5 ans que je m'enfile des gamelles dégueulasses. 5 ans de tôle de merde. Ah, tu crois pas que je vais payer l'addition pour bouffer les cheveux de ton custo?
Ça va, laisse tomber. Là. T'es pas foutu de tenir ton restaurant?
Bien sûr que si. C'est juste une erreur, monsieur. Je vais vous faire des nouvelles assiettes et la maison vous offre le repas pour ce désagrément.
Écoute-moi, je vais te faire asseoir à la table de ton propre restaurant, moi. Vas-y, assieds-toi.
Vito s'assoit sans dire un mot.
Dis-moi, Vito, j'ai appris que tu voulais vendre.
Qui t'a dit ça?
J'ai appris que tu voulais vendre.
Et la scène continue, évidemment. Et puis, il y a une espèce de chantage, de racket, hein, on peut dire ça.
Là,
quoi.
C'est du racket, ouais,
c'est du racket, voilà. Il va imposer un prix qui n'est pas du tout celui du restaurant. Voilà. C'est un cador qui arrive et qui veut rafler la mise, quoi. Sarah. Donc, là, il y a une sacrée distribution. Donc, combien? Plus de 10 détenus, 10 personnes détenues qui jouent chacun un rôle?
Oui, c'est 10 détenus donc, dans un dispositif qui est mené par lieu fictif avec la région, le département, qui est un dispositif de formation dans lequel Arnaud est intervenu aussi, où il y a en fait 10 détenus qui sont recrutés, donc qui s'inscrivent volontairement.
De la prison de Fresnes?
Non, des Baumettes, à Marseille.
Des Baumettes.
Ils sont recrutés et pendant 4 mois, ils vont recevoir une formation au métier du cinéma, le son, l'image, le montage, voilà. Et ils sont rémunérés pour faire cette formation. C'est de 9h du matin à 4h30 de l'après-midi, tous les jours, 5 jours par semaine, pendant 4 mois. Et à l'intérieur de ce dispositif de formation, il y a certains artistes qui sont invités à venir faire des créations avec eux. Donc moi, j'étais invitée à faire un travail artistique avec eux, autour du cinéma. Et du coup, j'ai travaillé sur l'idée d'une fiction. J'avais envie de sortir du côté documentaire vraiment de la prison et j'avais envie de provoquer d'autres représentations de ce qu'on pouvait avoir, déjà de ce que les détenus pouvaient avoir d'eux-mêmes et puis de ce que la société à l'extérieur pouvait avoir aussi. Donc ça m'intéressait de travailler sur d'autres représentations en travaillant précisément sur qu'est-ce que c'était que la représentation du cinéma par rapport à ces gens-là.
Et en fait, c'est enregistré comme un film. Hein. On parle de la caméra qui se déplace.
En fait, voilà. Donc, on a travaillé à partir de films que j'ai choisis, qu'on a regardés ensemble. À partir de ces films-là, on a fait des exercices de cinéma où ils ont écrit des choses, ils ont joué, on les a tournés, on les a montés. Et ensuite, ils m'ont chacun raconté des histoires que je leur ai demandé de m'inventer par rapport à ce qu'ils avaient vu. Et moi, j'ai enregistré tout ça. Et ensuite, je suis partie écrire un texte. Et je suis revenue avec un texte que j'ai modifié petit à petit avec eux. Et voilà. Et à la manière, effectivement, d'un scénario de cinéma. Là, on ne l'entend pas tellement dans cet extrait-là. Mais c'est vraiment écrit à la manière d'un scénario de cinéma.
Voilà. Et enregistré. On peut écouter ça en podcast.
Voilà. Et c'est enregistré comme une fiction sonore.
Ouais, oui. C'est super. Hein. Vraiment, c'est super. On parlait des conditions de production d'une œuvre artistique en prison. Des acteurs, entre guillemets, payés, une artiste payée, bien payée, ça paye bien l'administration pénitentiaire? Soyons
concrets. Ça dépend vraiment d'où vient l'argent, en fait. C'est très, très variable. Moi, j'ai travaillé en maison d'arrêt à Fresnes, j'ai travaillé à Arles ou au Baumettes. Je n'ai jamais touché tout à fait le même salaire. Mais le travail que je fais est un travail artistique, c'est-à-dire avec mes compétences de comédienne et de metteur en scène. Donc, je suis payée en tant que telle. Donc, bien ou pas bien, ça dépend.
Au tarif normal.
Tarif en vigueur.
En tout cas, au minimum syndical, oui, en tout cas.
Si tu veux des chiffres, grosso modo, quand c'est juste la part du SPIP, le SPIP, Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, depuis 3 jours, on jargonne, il faut qu'on fasse gaffe. ça rentre dans la mission de ce service d'accompagner et de nourrir des projets culturels. Généralement, ils mettent sur la table un tarif horaire tout compris, toute charge incluse, et sans aucun frais supplémentaire négociable, de l'ordre de 60 à 70 euros de l'heure. Voilà, pour répondre concrètement, c'est souvent insuffisant pour mener des projets, et il y a des fondations, il y a d'autres solutions, d'autres sources de financement possibles. Voilà, vous voulez des chiffres ?
Oui, merci.
Alors, peut-être pour compléter, la plupart des ateliers de pratique artistique ou en tout cas des financements des projets artistiques en prison passent par un dispositif interministériel qui s'appelle Culture Justice, hein, qui permet à la fois au ministère de la Justice via les DRAC en région de financer et soit au DISP, au SPIP, etc., de construire des budgets de production. Alors, c'est très organisé, réglementé, encadré quand il s'agit d'ateliers de pratique artistique. Mais quand il s'agit d'un projet artistique en prison, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut aller chercher des moyens. On se débrouille. Donc, c'est aussi la débrouille pour construire ça. Après, je vais revenir sur lieu fictif parce que, comme disait Sarah, moi, j'ai eu l'occasion d'y travailler deux fois, mais pas exactement au même endroit qu'elle. Les lieux fictifs, c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont conçu. Donc, ça fait quand même 30 ans qu'ils pensent la place d'une pratique de formation et de création en prison. C'est pas rien, 30 ans. Et c'est pas rien pour penser à un écosystème qui permette de tenter beaucoup d'hypothèses. Et pas simplement les hypothèses de mettre au travail les personnes détenues, hein, qui est en soi une chose passionnante, mais aussi qui permettent de mettre au travail les imaginaires de la prison à un endroit bien particulier qui est un espace, un tiers-lieu. C'est-à-dire un espace où on peut construire un imaginaire différent de ce que c'est que la coopération en prison. Je vais vous donner un exemple. On a, avec Caroline et Jo, organisé une formation qui mêlait les personnes détenues dans le dispositif qu'a énoncé Sarah, mais également des SPIP, des coordinateurs culturels et des surveillants.
Caroline et Jo, donc, qui dirigent Lieux Fictifs, Caroline Cacaval et Joseph Césarini.
Absolument. Et ce qui est très intéressant, merci, c'est que ça permet de créer des espaces de rencontre, et notamment à certains professionnels qui s'imaginent ces ateliers de pratique artistique pour les personnes détenues comme étant un truc totalement périphérique, et je suis pas loin de le penser à certains moments, pour y revenir, mais aussi qui permettent de donner des éléments de compréhension sur qu'est-ce que ça apporte et à qui ça peut apporter. Et notamment quand on pense des coopérations qui mêlent tous les acteurs de la prison, ça permet de déplacer tous les acteurs de la prison. Potentiellement, c'est comme l'Oulipo, c'est potentiel.
Clémence, est-ce qu'on écouterait un nouveau son? Je te le laisse présenter, qui va nous amener sur un atelier vraiment dans son aspect très concret, comment il se déroule, comment il est organisé.
Alors je l'ai eu au téléphone, Laurence Mayor, qui est aussi comédienne et qui a mené des ateliers d'écriture à la prison de Fresnes avec Christian Pacou. Et ces ateliers d'écriture ont donné lieu à ensuite un album. Christian Pacou est venu, a fait de la musique avec eux, ensuite à partir de là a repris cette matière de texte, a fait un album qui s'appelle La Promenade et qu'on a diffusé tout au long de la semaine le soir à 21h dans les petites et grandes oreilles, donc peut-être l'avez-vous entendu.
Un album de contes, qu'est-ce qu'on peut dire?
C'est un album des contes chantés, c'est à destination d'un jeune public, et en fait ils en ont fait un spectacle qu'ils ont joué avec les détenus à Fresnes, et ensuite maintenant ils le tournent voilà en France. Et donc on a parlé de beaucoup de choses, mais aussi c'est assez concret, on a parlé des difficultés en fait par rapport aussi à l'imaginaire de ce que c'est que d'aller faire des ateliers en prison. Je propose qu'on écoute.
Je pensais les faire travailler des contes qui existaient déjà, donc j'en ai donné à chacun pour qu'ils les lisent, ensuite je les ai fait raconter ce qu'ils avaient lu, etc. Et parallèlement à ça, pour qu'ils arrivent à sentir que les contes que je leur avais donné à lire, il fallait qu'ils les investissent de leur personnalité, de leur présent, de leur envie de raconter. Et parallèlement à ça, j'avais à peu près 500 images de toutes sortes. Ça peut être des photos, mais ça peut aussi être une photo de peinture, de tableau, bref. Il y avait une foule d'images et je leur ai proposé de choisir des images et à partir de ces images, d'inventer une histoire. Et petit à petit, les contes que je leur avais donnés à travailler ne les intéressaient pas du tout. Et par contre, je sentais qu'ils étaient très ardents pour les contes qu'ils inventaient. Et à un moment donné, j'aurais dit, mais il va falloir choisir, est-ce que vous voulez vraiment renoncer aux contes écrits? Et ils m'ont tous dit, oui, absolument, on veut écrire nos contes. Donc, ça s'est fait comme ça. Petit à petit, on a mis tout l'atelier était sur les contes qu'ils ont écrits. Après, il y avait des choses extrêmement difficiles, c'est les désistements. C'est-à-dire que j'arrive et puis les surveillants me donnent un papier, refus, voilà, et on peut strictement rien faire. Donc on est parti à 11 et on a fini à 4. Ça a été très perturbant par rapport à l'idée de départ que j'avais. J'ai compris aussi que dans la prison, il fallait renoncer à ses idées assez vite. Il faut être extrêmement souple et s'adapter et voir les choses qui sont données et pas imposer, avoir des idées de ce qu'il faudrait, etc. Parce que très vite, il n'y a plus personne, quoi. Il y a aussi une chose qui, moi, m'a beaucoup touchée, c'est que moi, je pensais qu'il travaillerait d'un lundi à un lundi. C'était le lundi, je crois que c'était le lundi. Et en fait, pas du tout. Et j'étais très étonnée de ça, enfin, pour la plupart. Et j'étais très étonnée. Et en fait, ils m'ont expliqué que les conditions de détention ne leur permettaient pas de se concentrer, quoi.
Sur le papier, l'histoire sur le papier, marcher sur le papier, briller sur le papier, renaître de la panade. Mon crayon est à la promenade. Il s'envole au fil de l'eau, il nage avec les oiseaux, il met des ailes aux mille pattes et des fleurs aux acrobates. Crayon vert ou crayon bleu, il fait la pluie quand il pleut. Crayon rouge ou crayon noir, mais ça tu vas pas le croire. S'enfuir sur le papier, gagner sur le papier, sourire sur le papier, rêver sur le papier,
revivre jamais malade.
Mon crayon, pour les garçons, pour les filles, stylo plume ou stylo bille.
Il peut chasser des requins ou dessiner des moutons.
Il sait marcher sur les mains et courir à reculons. Chanter sur le papier, la vie sur le papier. Kiffer sur le papier, oui, oui, kiffer la vie. Chanter le roi.
Voilà, c'est un extrait donc de l'album La Promenade qui a été réalisé par Christian Pacou à partir des textes écrits en détention sous la houlette de Laurence Mayor. Christian Pacou qui fait le festival des fromages de chèvre très bientôt en juillet, je vous le recommande. C'est un festival sans fromage de chèvre, mais c'est un festival à destination pour les personnes marginales. Voilà, ça a l'air super. Donc, je vous permets d'en parler.
Merci pour l'échelle.
C'est quoi des personnes marginales?
Il m'a dit c'est des personnes qui ont des parcours de toxicomanie, de détention et qui sont dans des pratiques artistiques. Et donc, son festival est autour de ces personnes-là, avec aussi des artistes professionnels.
Et bien sûr, du fromage de chèvre.
Eh ben non.
Non,
mais sans fromage de chèvre.
Ah bon?
Sans fromage de chèvre.
Donc, c'est une illusion.
C'est pour absolument teaser un peu, pour que absolument vous alliez voir sur Internet ce qu'il en est.
Bon, alors, on laisse les fromages de chèvre. Je ne sais pas si on aura ou pas, je n'ai pas bien compris. Mais bon, bref, Laurence Mayor, elle souligne quelque chose d'important. J'aimerais vos réactions là-dessus. Elle dit, j'arrive avec une proposition, des comptes déjà écrits. Et les personnes détenues qui sont inscrites à l'atelier disent, ça ne nous intéresse pas, on veut écrire nos propres comptes. Mmh. Patrick, vous avez souvent participé à des ateliers comme ça, où l'artiste arrivait avec sa proposition et il se passait autre chose?
Oui. Alors, on en a fait un avec Marie-Agnès Gillot, qui est la danseuse de l'Opéra de Paris, quoi. Et elle est venue avec une musique libre de droit, bien sûr. Donc, elle a pris le boléro de Ravel. Et elle nous a demandé de lui proposer des gestes qui sont faits en prison. Des gestes...
Sur la musique?
Non. Qu'elle allait, elle, se les approprier pour en faire une chorégraphie sur le boléro de Ravel. Et donc, parce que là, en prison, on a une façon de marcher qui étonne beaucoup les gens. Surtout quand il y en a qui viennent nous voir, ils disent, comment ils marchent ces gens-là? C'est à force de marcher dans les petites cours de promenade, donc on a une façon de marcher, on a une façon de gestes, de s'exprimer qui sont un peu différents. La façon de monter au barreau, de regarder au-dessus des barreaux, c'est des gestes que forcément, vous, les gens que nous, on n'y fait pas attention, mais quelqu'un qui vient de l'extérieur qui nous voit faire ces gestes, il les regarde avec curiosité, même friandise des fois, parce qu'il veut comprendre quelle est la signification, parce qu'il y a toujours un signifiant et un signifié quand même, bon, qui est sur un geste, quoi.
C'était une bonne idée alors, Daniès.
C'était une très bonne idée. Donc, et d'ailleurs, elle a fait cette chorégraphie, elle l'a jouée au théâtre des Champs-Élysées, mais on n'a jamais pu voir. Enfin, elle nous l'a jouée officiellement.
D'accord.
Elle est venue nous la jouer, la chorégraphie devant nous, une fois finie, mais le spectacle sur les Champs-Élysées, officiellement, on ne l'a pas vu.
D'accord. Mais ça, alors, vous avez plutôt adhéré à la proposition, là, non, Patrick, dans ce cas-là?
Ah oui, mais on adhère. Ouais, ouais. Mais totalement. Mais nous, on adhère, mais bon. Après, je vous dis, on était un groupe, un noyau, que Jean-Michel et Sarah plus ou moins connaissent, donc il y a toujours un peu... Il y a un peu des meneurs, quand même. Hein,
Jean-Michel, vous voulez...
Alors, du coup, ce que Patrick ne sait peut-être pas, c'est qu'en fin de compte, le projet qui s'est fait, ce n'était pas du tout celui qui était prévu. Marie-Agnès avait envie de travailler sur une espèce de réécriture, de nouvelles pensées sur le fil d'Ariane, et d'imaginer que c'était en réalité non pas un fil qui avait existé, mais quelqu'un qui s'était déplacé dans un espace, comme une chorégraphie, et qu'on avait embarqué un certain nombre de gens dans cet imaginaire-là. Et en fin de compte, c'est à la suite des deux ou trois réunions préalables et de rencontres et de constitution du groupe, que petit à petit, chaque soir, on a réécrit à la suite de la perméabilité qu'elle recevait de cette rencontre.
Okay,
en fin de compte, ces gestes autour de la détention...
Donc Patrick, ce que vous venez de décrire là, c'est ce qui venait de vous finalement.
Voilà,
oui, mais ça,
c'est
okay,
pour ça que j'ai envie de le dire, c'est que c'est réellement eux qui ont fait l'histoire.
Oui, donc c'est un vrai bon exemple d'un artiste qui vient et qui est finalement bousculé par le groupe qui rencontre, quoi.
Non, mais votre question est surprenante, hein, parce que si vous voulez, pour moi, que l'artiste se fasse replier son projet, c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais
c'est une très bonne nouvelle.
Non, mais
ce que je veux dire par là, c'est que quand on vient avec un projet préécrit, prépensé, prédéterminé pour un public de qui vous savez, on a quand même de grandes chances de passer à côté de l'autre. Donc, pour moi, ce qui me semble être le préalable, c'est de rien écrire autre qu'une hypothèse dans laquelle et les uns et les autres vont pouvoir, d'une façon ou d'une autre, penser sa place. Donc on est sur une question pour moi qui relève plutôt de la diplomatie. Comment on pense en diplomate, pour reprendre Baptiste Morisot et son bouquin sur les traces animales. C'est une question d'attitude. Moi j'entendais là sur l'exemple que vous avez passé là sur la maison d'arrêt de Fresnes. Je pense qu'il faut quand même que vous situiez le contexte dans lequel l'atelier de cette personne s'est fait. C'est une des plus grosses tôles de France où les surveillants sont débordés et que finalement monter un atelier dans ce type de structure, c'est infernal.
Oui,
c'est infernal.
Personne... C'est un centre de tri en plus, je crois, Fresnes.
Ah, oui, parce que
c'est une garde de triage.
Ça me semble c'est très important de distinguer la maison d'arrêt d'un centre de détention ou d'une maison centrale. C'est pas du tout la même chose dans le rapport au temps et au traitement des corps, si je puis me permettre. Après, elle a dit renoncer à ses idées. Moi, je renonce jamais à mes idées. J'agis en diplomate, c'est-à-dire par quels moyens on peut réussir à composer avec les imaginaires des uns et des autres pour penser une place qui soit une place négociée.
Donnez-nous un exemple, Arnaud, puisqu'on n'a pas encore concrètement parlé de votre travail. Vous vous animez pas des ateliers avec des détenus. Enfin, vous êtes peut-être...
J'en ai fait quelques-uns, voilà. Oui.
Mais ces dernières années, vous avez surtout travaillé avec les personnels de la pénitentiaire.
Alors, moi, je vais prendre l'exemple, le dernier en date, qui est le travail que j'ai mené à la maison d'arrêt de Draguignan, où j'y suis allé pour l'ouverture de la maison d'arrêt, juste avant l'arrivée des détenus. Et en fait, j'ai suivi le vivant s'installer dans la prison. D'abord, les personnels de surveillance qui tournaient à blanc, qui surveillaient la prison à blanc et qui s'emmerdaient comme des rats morts, parce qu'il leur manquait leur alter ego, hein, le détenu. Ils n'avaient pas les odeurs, ils n'avaient pas les insultes, ils attendaient leurs clients. Et ensuite, si vous voulez, ce qui m'a frappé, c'est avec l'arrivée...
Vous avez fait des photos, là.
Alors, j'en ai fait une enquête qui est à la fois anthropologique, documentaire, philosophique. Donc, ça produit des images, mais ça produit aussi beaucoup de textes et d'écrits, et surtout des échanges. Et en fait, si vous voulez, j'ai vu arriver moi le premier détenu qui a passé la nuit tout seul dans la nouvelle maison d'arrêt. Et puis petit à petit, les détenus qui arrivaient des baumettes, etc. Et j'ai suivi ça pendant 3 ans. Et ce qui est très frappant dans un lieu pensé pour la maîtrise, donc un lieu très moderne, hein, c'est comment les tout petits indices du vivant s'installent. Ça peut être des plantes, ça peut être des insectes, et ça peut être aussi l'imaginaire de la forêt qui tout autour vient par porosité successive envahir les imaginaires de tout le monde. Et donc voilà, je disais agir en diplomate, c'est-à-dire moi je me suis appuyé sur les expériences de vie d'abord des personnels, parce que c'était d'abord eux qui étaient dans le dispositif, et ils m'ont raconté l'histoire des renards qui chassent la souris dans le glacis, les sangliers qui viennent se prélasser à l'entrée de la prison, et puis vous savez, il y a eu un serpent qui est rentré dans la prison, mais on ne sait pas si c'est le mauvais œil ou si c'est un serpent qui est rentré tout seul. Donc toutes ces histoires, vous voyez, qui constituent finalement le lit d'une prison en train d'émerger, dans une forêt, c'est très important, m'ont permis de travailler avec les personnels, avec les détenus, sur une espèce d'enforestation de la prison, hein, c'est-à-dire comment on peut jouer l'imaginaire de la prison au sein même de cet établissement. Et je suis venu avec des animaux morts. C'est-à-dire que je suis venu avec des animaux empaillés, donc des sangliers, des renards, des oiseaux, etc. Et chacun a pu prendre sa part et sa place différente des attendus dans un jeu que je proposais autour du vivant. Et c'est ce qui était très bouleversant finalement, c'est que l'animal permettait, l'animal même mort permettait d'engager des relations entre les individus, leur propre mémoire, leurs propres histoires, leurs propres émotions, leurs propres larmes aussi, hein, parce que c'est même si l'animal est là que dans sa représentation empaillée, il est quand même celui qui fait ressurgir des émotions. Pour tout ça, pour faire une installation dans la prison, c'est-à-dire que chaque personne qui rentre maintenant dans la maison d'arrêt de Draguignan voit un surveillant avec un corbeau sur le genou, et il caresse le corbeau, le surveillant. Et ça va jusque dans les cours de promenade, les coursives, etc. Tout le monde a joué le jeu. Et dernier exemple pour voir un peu cette histoire de diplomatie, vous avez quelques images avec des détenus, donc des personnes détenues, des surveillants et des animaux ensemble à l'image de face. C'est très important ce que je suis en train de dire, parce que j'en suis d'abord ravi d'avoir mené l'expérience de cette image-là, parce qu'elle est rare, en fait, de pouvoir proposer le partage, de proposer du commun, de mettre en partage du sensible avec l'ensemble des acteurs de la détention.
Est-ce qu'ils ont été fouillés, vos animaux empaillés, ou pas ?
Alors écoutez, comme je suis venu avec quand même une camionnette entière, on a ouvert les portes plus, donc ils n'ont pas été fouillés. Ce qui m'a permis de rien faire rentrer du tout, hormis les animaux.
Ok. Et le contrat que vous aviez signé avec l'administration pénitentiaire, ça a été compliqué pour aboutir à tout ça ou pas ?
Non, pas du tout. Ça m'a pris 10 ans. En fait, si vous voulez, c'est ce qui, pour bien comprendre comment j'en arrive là, c'est-à-dire que c'est une histoire longue de 10 ans et qui passe par un contrat tacite, une confiance que me donne un directeur pour rentrer dans une maison d'arrêt qui vient de fermer. Et le contrat, c'était je ne souhaite pas produire une image vulgaire, violente et stigmatisante de la prison. Je vais y aller. Je vais me faire ma propre opinion en déconstruisant les stéréotypes qu'on pointe sur la prison. Donc j'ai pris du temps. Évidemment, j'ai aucun contrat avec l'administration pénitentiaire. J'ai une succession.
Aucune demande de modification en cours de route ou à la
Je n'ai aucune commande. Donc j'ai simplement, projet par projet, des conventions qui stipulent là où je peux avancer et ce que je peux en faire. Mais tout est négocié pas à pas, mais à aucun moment on m'a dit « cette photo-là, tu l'enlèves », etc. Par contre, à chaque moment d'apparition de l'image, c'est du dissensus total, surtout dans les lieux de formation, parce que c'est des lieux formidables en termes de symboles, les lieux de formation. Mais pour ce qui est de la maison d'arrêt de Draguignan, évidemment, la confiance s'est établi peu à peu, la directrice me connaissait, on a négocié une place et j'ai débordé. Mais j'ai débordé en respectant toutes les personnes dans le jeu que je leur proposais. Toutes les personnes dans le jeu que je proposais, c'est-à-dire les personnes détenues, bien évidemment, il y a des signatures, autorisations, les surveillants, c'est la même. Et là où la confiance est la plus patente, c'est que tous ont accepté de poser de face. J'insiste, de face. Donc de sortir des images de ces personnes dans ces conditions de travail, des conditions de face.
Ok. Merci pour ces descriptions assez étonnantes. Sarah-Louis, ce que vient de décrire Arnaud Théval, tout un travail notamment avec les surveillants. Vous, dans vos ateliers avec les personnes détenues, quel est le rapport avec les surveillants avant, pendant le projet et quand il est restitué ?
Alors, en fait, au départ, moi, ce projet de fiction sonore que j'ai fait au Beaumet, c'était un projet beaucoup plus ambitieux qui, justement, impliquait les personnels de surveillance et qui impliquait même des détenus de prisons différentes qui pourraient, par le truchement des ondes de la radio, se donner la réplique les uns les autres par casque. C'est-à-dire, j'avais imaginé travailler sur plusieurs prisons, enregistrer certaines choses avec des détenus, des personnages, voilà, et puis avoir la réplique comme quand on fait du doublage. Voilà. Donc j'avais imaginé un projet assez ambitieux qui était complètement transversal, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, je voulais faire se rencontrer dans le hors-champ du son les surveillants, les détenus et des détenus entre eux de prisons différentes. Quand j'ai commencé à parler de ça à certains directeurs de prison, même pas aux directeurs, au SPIP, donc Service Pénitentiaire d'Insertion et Probation, tout de suite, je me suis rendu compte que ça allait être extrêmement compliqué et mon projet a été réduit à travailler uniquement avec des détenus par rapport à cette fiction sonore. Mais je ne vais pas lâcher l'affaire, je pense que je vais quand même essayer de repartir sur un projet qui serait très très poreux et très transversal. Mais quels sont les rapports avec les surveillants? C'est extrêmement différent d'une prison à l'autre. Et je crois que ce que dit Arnaud est vachement important sur de quelle prison est-ce qu'on parle. Par exemple, moi, j'ai travaillé à Fresnes au début, il y a 15 ans de ça. Ce que décrit Laurence Mayor sur le fait qu'elle va chercher des personnes et qu'on revient avec un refus. Moi, je l'ai vécu beaucoup, ça, au début. Et on ne sait jamais si le refus, c'est le détenu qui le formule vraiment ou si c'est une espèce de petite réprimande parce qu'il s'est passé je ne sais pas quoi la veille avec tel ou tel surveillant. On a toujours la version des détenus et la version des surveillants.
On demande à Patrick.
Ensuite, Patrick, qu'est-ce qu'il y a derrière la formule centrale, voilà,
refus différent. Un artiste qui vient travailler puis il attend 10 détenus, il y en a 3.
En maison d'arrêt.
Ouais, là,
ça peut être varié. Ça peut être varié, ça peut être le surveillant qui n'a pas le temps d'aller le chercher parce qu'il est débordé. Donc il dit à l'autre, dit à l'intervenant qui a refus, parce que soit le jeune est allé au stade ou
c'est peut-être. Ou il est malade, il est puni. Ou il n'a pas envie.
Ou il n'a pas envie. À maison d'arrêt, ça peut être multiple. Ça peut être multiple. En centrale, c'est différent. Centrale, ça n'a rien à voir.
Et dans les projets auxquels vous avez participé, Patrick, qu'est-ce que ça avait comme effet sur les surveillants pendant et après, quand il y a restitution?
Disons que les surveillants, il y en a beaucoup qui ne sont pas contents. Hein. Quand ils nous voient, par exemple, discuter des heures avec Edoui Plenel, avec Jean-Jacques Rapneau,
qu'est-ce qui leur déplaît?
Ce qui leur déplaît, c'est que des gens importants de Paris, par exemple, viennent nous voir à nous et pas les voir à eux.
Ils sont jaloux.
On avait la dernière directrice qu'on avait, là, c'était que ces gens-là, à force qu'ils nous donnaient de l'importance, à point de se rendre nous importants, trop importants, plus ce qu'on était, quoi. C'était un peu ça. Alors, il nous disait déjà que vous avez un charisme naturel. En plus, ces gens-là viennent vous voir, alors maintenant, on ne peut plus vous parler presque. Mais non, ils viennent nous voir. Et nous, ça nous fait plaisir, parce qu'après, on a des discours construits quand même. Attention, on n'est pas. C'est le noyau que je dis qu'on parle, c'est pas. C'est des gens qui sont. Et puis attention, il y a des gens, que ce soit au bâtiment A ou au bâtiment B, il y a des pointures. Il ne faut pas. Ils savent de quoi ils parlent, et puis ils savent parler. Mais bon, là, ça fait grincer les dents. Bon. Après, en même temps, ils ont encore des dents pour grincer. C'est déjà pas mal. Mais ça fait un.
Vous voyez, je peux réagir peut-être à moins que.
Ouais, vas-y. Non, chez les officiers, non, mais par contre, chez chez le personnel, oui, ça. Chez les syndicalistes, alors n'en parlons pas, mais bon. Même quand il fait chaud, qu'il ne pleut pas, qu'on peut sortir en promenade, ça les gêne alors.
Ouais, moi,
un brouillard permanent, ils seraient contents. Donc.
Pour la sieste.
Voilà, comme ça, on n'a pas de promenade.
Oui, bien sûr. Non, mais je trouve ça intéressant, cette question de qu'est-ce qui te déplaît. Parce que moi, il me semble là que vous pointez du doigt ou vous levez un lièvre. C'est-à-dire qu'en fait, l'impensé de l'arrivée des intellectuels en prison, c'est que précisément, on va destiner son savoir, sa connaissance, sa réflexion à l'endroit de ceux qui sont punis de liberté. Donc, on est effectivement quand l'art se mêle de liberté. Bon, ok. Et en même temps, on peut se poser peut-être la question de se dire, mais pourquoi, alors que dans nos positions politiques, on lutte en permanence contre les séparations, pourquoi on n'est pas capable de penser le commun en impliquant l'ensemble des acteurs à ces moments-là? Ça me semble être très, très important. Et pour le coup, bah, les surveillants...
Parce que les acteurs, comme vous dites, ils sont en opposition et en confrontation.
Je pense que ça, c'est...
frontal.
C'est un fantasme, ça.
C'est un fantasme, Patrick.
Non, c'est pas tellement... C'est un fantasme, oui, un petit peu un fantasme. Mais là, c'est ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu'ils viennent nous voir. Quand Patrick Harfi vient nous voir, ils sont là-bas, Laura Adler vient nous voir.
Mais c'est
des mois, pas une fois, non, pendant un mois. Ils viennent de Paris, ils ne savent pas où dormir, quelqu'un qui les fait dormir. Bah, ils sont là, ils mangent leur sandwich. Là,
mais c'est violent, c'est une violence à l'endroit de l'autre qu'on sépare de la qualité de la rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il soit énervé de ça, mais pour moi, je ne veux pas dire que c'est légitime. Mais si moi, vous m'excluez d'une discussion avec quelqu'un qui pourrait m'apporter aussi à moi dans mon propre être, là où je travaille, bah, je peux aussi penser que là, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a un dérangement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir pourquoi il y a un dérangement et pourquoi on ne pense pas ce dérangement dans la pensée politique plus qui lutte contre les séparations.
Ah, d'accord. Ma réflexion, c'était que l'institution met les deux catégories de personnes face à face. Désolé,
Mais que peut l'art, là.
Alors, voilà.
Je crois que ça dit tout de cette difficulté de gestion de l'enfermement. C'est que, comme il n'y a jamais eu de production d'une vraie pensée sur ce que signifiait cette peine de privation de liberté, qui est, rappelons-le, la seule peine prononcée par le juge, privation de liberté. Donc, comme il n'y a jamais eu de réflexion intellectuelle là-dessus, la plupart des gens qui travaillent et qui ont des formations plutôt bancales, on va dire ça comme ça,
très courtes, de médiocre qualité,
n'analysent pas la chose et pensent qu'il est naturel de priver de plein d'autres droits. Or, encore une fois, c'est le seul droit dont ils sont privés, les gens qui sont enfermés. C'est très complexe. Donc, du coup, effectivement, faire de l'art, quand souvent, s'agissant de gens qui n'ont eux-mêmes pas de rapport avec cet espace-là,
C'est pas vrai. Enfin, je suis venu, excuse-moi, mais tu assignes complètement les surveillants à des gens qui n'ont aucun rapport avec l'art. C'est archi faux. Oui, mais non, parce que si tu veux, c'est problématique ton récit, parce que d'un seul coup, tu sépares une nouvelle fois les sachants des non-sachants et les bonnes et les mauvaises cultures. Moi, je peux t'assurer qu'il y a des surveillants comme monsieur qui disent de la philosophie et d'autres qui vont voir des expos, et puis d'autres qui n'ont rien à foutre et d'autres qui font du foot. Et alors ?
Qui font du foot.
Tu vois,
on peut faire les deux, excuse-moi.
C'est ce que je faisais.
Je m'appuie sur des études statistiques qui sont celles des pratiques culturelles des Français, éditées régulièrement par le ministère de la Culture.
Je suis d'accord, mais il faut arrêter d'essentialiser et de globaliser tout le monde dans le même sac. Il y a des singularités. Travaillons les singularités plutôt que de dire ceux-là ne sont pas capables de ça. D'ailleurs, moi, si on met dans des statistiques, je suis cramé, j'expose rarement dans les musées, donc je ne suis pas un artiste.
Non, mais il y a un autre problème qui se crée aussi, c'est que. C'est vrai, ce que tu dis, dans la centrale d'art, il y avait des surveillants qui seraient intéressés de participer. Sauf que, bon, la direction se refuse catégoriquement que des personnels et des détenus se trouvent en...
La direction, Patrick, parce que moi, quand j'ai proposé le projet...
Les syndicats.
Non, que les syndicats, les détenus eux-mêmes et certains d'entre vous m'ont dit clairement... Sarah, ça va être très difficile pour nous d'envisager de travailler avec des personnes qui nous briment, qui nous machin. Et donc, le clivage, quand même, il existe. C'est pour ça que c'est très intéressant de travailler à l'endroit de l'impossibilité.
Alors,
mais comment? C'est toute la question.
À qui parle-t-on? Je me permets de redire, parce que à qui parle-t-on? Parce que tout à l'heure, tu dis quelque chose qui m'a interrogé, qui m'a interloqué. C'est comment on construit nos espaces de diplomatie dans la prison. C'est-à-dire que la plupart des dispositifs permettent de passer par les SPIP qui ensuite, ou alors les coordinateurs qui ensuite vont voir les détenus, matin, etc. Bon, bref. Moi, je pense que fondamentalement, puisque ce sont des systèmes de pouvoir verticaux, il faut impérativement parler au patron. Point barre, il faut que les responsables, c'est-à-dire que les directeurs, qu'ils soient DPIP ou DSP, hein, directeur de service pénitentiaire ou directeur d'institution de probation, soient les premiers... au courant, impliqué politiquement dans le projet qui va se dérouler avec toute son indétermination, pour que les hypothèses de porosité entre les différents corps qu'on ne cesse de séparer puissent exister. Bon, on a d'autres exemples où dans le théâtre, surveillants ou personnels jouent ensemble. C'est pas non plus bon.
Impossible.
Ben, oui, mais là, le problème, c'est que ce ne sont pas tous les fils naturels de l'évêque d'Autun. Hein. Ils n'ont pas tous fait de la diplomatie, c'est même parce que c'est.
Donc, les travailleurs fils naturels de l'évêque d'Autun. Éclaire voir un peu là.
Talleyrand.
Ouais.
Talleyrand.
D'accord.
L'évêque d'Autun, c'est
pas. Je connais pas ce texte. Mais je connais pas cette référence.
C'est son titre.
Ok, Patrick.
Il était évêque d'Autun d'abord.
Et donc,
avant tout.
Et donc,
la diplomatie, il y en a quelques-uns qui sont capables de le faire, sauf que soit ils sont mal vus parce qu'ils sont trop proches des détenus.
Absolument.
Par les autres, par les syndicats. Ils nous montraient justement, dès qu'on était seuls, ceux qui étaient à peu près avec nous bien, ils nous montraient ce qu'ils écrivaient, les syndicats, sur eux. Ils nous montraient carrément sur leur compte, sur le PC, dans leur bureau, ce que les syndicats écrivaient sur eux. Ils se balançaient entre eux, quoi. Donc, il y a eu deux journées, avant que je sorte, qui ont été faites communes. Il y a eu une journée sport et après repas. Alors, c'était un semi-marathon participatif, c'est-à-dire chacun prenait sa place, un à vélo, l'autre en courant. Il y avait direction, surveillant, détenu et même le médical.
Donc ça, c'est sur le sport. Deuxième exemple auquel vous
pensez. Le deuxième exemple, ça a été sur le merde, j'ai oublié le mot, pour la réanimation, tout ça, pour le...
Le sauvetage,
le premier geste de sauvetage qu'on a fait par... Oui, ça me... Ouais. J'avais un trou, là. Et...
Ça a été en commun.
Ça a été aussi en commun, détenu, direction et bien sûr, surveillant.
Alors, ce que je vous propose, c'est, parce que là, on arrive au bout, c'est de nous donner rendez-vous pour même type d'émission l'année prochaine. Et on espère qu'entre-temps, il y aura un troisième exemple, mais où là, ça sera une rencontre artistique commune, peut-être, ou peut-être pas, on verra. Ben ça vous va comme ça?
Parfait.
Parfait. Bon, okay.
Merci à tous les quatre, beaucoup. En tout cas. Hein. Sarah, merci à vous. Arnaud,
merci.
Et Jean-Michel.
À l'ombre de concertina, c'est fini pour cette année. Merci à Bruno et Morgan à la technique. On termine par un morceau de musique. Et à suivre, c'est une interview de Dominique Simoneau, l'actuelle contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qu'on a pu entendre hier et qui a été interviewée par Pauline de Radiola.
Super.
Bien cultivé comme à l'agonie, te voilà seul à douter devant tes amis. Tu n'as pas su retrouver l'annonce élégante qui garnirait ton CV de boulot navrant. Te voilà bien intégré, le pauvre ou le sombre, te voilà bien résigné dans ton bel habit. Paris défend ses intérêts, Paris défonce ses enfants par milliers, Paris étend son rayonnement. Mais de l'autre côté, serrer les dents n'est pas assez. Ta vie. Mais quand les décès son pipet, tricher coûte un prix aussi. Tu t'étais taillé l'écran pour contrer ta faim. Tu t'es retrouvé mordu tout en restant chien. De l'autre côté, serrer les dents n'est pas assez.